Europe Matin,
le 5-7.
Sébastien Krebs.
Allez, c'est parti tout de suite, votre journal avec Sophie Echen. Bonjour Sophie.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Précisément 6h sur Europe 1, bon réveil.
C'est une femme politique courageuse, forte, mais dure aussi, et qui a énormément compté dans le parcours politique de François Bayrou.
L'émotion de toute la classe politique après la disparition de Marielle de Sarnez, figure du Modem et bras droit de François Bayrou. La députée centriste est morte hier soir des suites d'une leucémie. À quelles nouvelles restrictions faut-il s'attendre? Le gouvernement annoncera ce soir des mesures plus strictes pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. À Nice, le maire envisage d'interdire les locations saisonnières pour les vacances d'hiver. Les policiers veulent faire partie des publics prioritaires à la vaccination. Ils estiment qu'ils sont eux aussi en première ligne face à la crise. Dans ce journal, on fait aussi le point sur l'origine des différentes mutations du Covid qui inquiètent les autorités sanitaires. Et puis bientôt fini, le jambon rose dans les rayons. Un rapport parlementaire réclame le bannissement des nitrites, un conservateur qui favoriserait certains cancers.
À suivre les sports avec Jérôme Lacroix et mon invité inattendu, une médecin inattendue ce matin qui fait partie de ces soignants qui ont combattu le Covid en première ligne. Particularité, eh bien elle portait avant sa blouse blanche une écharpe de Miss France. Elle est avec nous à 6h15. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La France perd une responsable politique de grand talent. L'hommage d'Emmanuel Macron après l'annonce de la mort de Marielle de Sarnez hier soir. La députée centriste, ancienne ministre, s'est éteinte à 69 ans. Elle souffrait d'une leucémie. Sa disparition provoque une vive émotion au sein de toute la classe politique. Son alter ego, François Bayrou, rend hommage lui à une femme si talentueuse et courageuse. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, a commencé sa carrière sous la tutelle de Marielle de Sarnez. Écoutez.
Je savais qu'elle était malade et c'est de la tristesse. Moi, j'étais jeune militant dans la campagne de François Bayrou en 2007 et je pense à tout ce qu'elle m'a appris, à la fois de force, de courage, de lucidité, d'analyse politique. Elle s'était engagée très jeune, je crois à 17 ou 18 ans, derrière Valéry Giscard d'Estaing. Elle n'a jamais quitté la famille du centre. Elle a été une grande militante européenne, une grande parlementaire européenne, très respectée. C'était une femme politique courageuse, forte, mais dure aussi, et qui a énormément compté dans le parcours politique de François Bayrou. François Bayrou et Marielle de Sarnez, politiquement, ne faisaient qu'une seule et même personne. Elle a dirigé toutes ses campagnes présidentielles. Elle ne l'a jamais trahi, ce qui est assez rare en politique. J'ai rarement vu dans la vie politique deux personnes aussi proches, aussi en fusion d'esprit. Et je pense à François Bayrou, qui doit être bien triste et bien seul ce soir.
Jean-Christophe Lagarde avec Théo Manval.
Autre grand titre ce matin, les nouvelles décisions du gouvernement pour tenter de ralentir l'épidémie de coronavirus.
Le Premier ministre Jean Castex prendra la parole à 18h. Plusieurs hypothèses sur la table, mais tout porte à croire qu'on se dirige vers un couvre-feu à 18h généralisé sur tout le territoire. À Nice, le maire Christian Estrosi réclame des mesures strictes de la part de l'État. En cause, la situation des Alpes-Maritimes qui reste préoccupante. Le taux d'incidence reste plus élevé que sur le plan national.
Et dans ce contexte, Christian Estrosi envisage tout simplement d'interdire les locations saisonnières pour les vacances d'hiver. Il a même demandé un arrêté préfectoral en ce sens. Et si l'État refuse d'agir, la ville de Nice prendra ses responsabilités, dit-il. Écoutez Anthony Boré, son premier adjoint.
C'est notre stratégie avec Christian Estrosi depuis le premier jour. Prendre des décisions difficiles lorsqu'elles s'imposent, et ça n'est pas de gaieté de cœur que nous le faisons, pour espérer rebondir plus vite que les autres. Christian Estrosi a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de prendre un arrêté qui concernerait l'ensemble de sa ville pour interdire, pendant les 15 jours de vacances d'hiver, les locations saisonnières. C'est aussi un des moyens de lutter contre le virus. Évidemment, il ne s'agit pas de dire que ces locations saisonnières en sont responsables, mais c'est avec une addition de mesures que nous arriverons à éradiquer les choses. Et si le préfet ne prend pas cette mesure, c'est la ville de Nice elle-même qui, par arrêté, le décidera. Il faut plutôt préparer le mois d'avril, le mois de mai et l'été, plutôt que de donner de faux espoirs à préparer un mois de février qui, de toute façon, sera un mois morose et un mois difficile.
Le premier adjoint du maire de Nice, Anthony Boré, avec Frédéric Michel.
Plus de 247 000 personnes ont désormais été vaccinées en France, selon les derniers chiffres du ministère de la Santé. 60 000 ces dernières 24 heures.
Alors que la campagne de vaccination s'amplifie. Les policiers montent au créneau et demandent à ce que, comme les soignants, les aides à domicile, mais aussi les pompiers, ils puissent être candidats à la vaccination sans condition d'âge. Ils estiment être en contact permanent avec la population et en appellent au ministre de l'Intérieur. Stanislas Godon est le secrétaire général adjoint du syndicat Alliance.
Les policiers, depuis le début de la crise sanitaire, ont été exposés au coronavirus. 14 000 agents ont été infectés par la Covid-19. Je rappelle également que nous sommes un peu sur tous les fronts. Alors, on nous a demandé de faire respecter le confinement. On nous a demandé de faire respecter le couvre-feu. On nous demande de contrôler également les établissements qui sont censés être fermés pendant la crise sanitaire. Donc, tout ceci fait que les policiers, oui, ils sont exposés et oui, ils ont le droit d'avoir au moins l'opportunité, la possibilité de se faire vacciner.
Stanislas Godon du syndicat Alliance avec Chloé Triomphe. Et puis cette question à présent, d'où viennent ces variants du virus qui inquiètent tant le gouvernement et les scientifiques? On a beaucoup parlé du variant britannique qui commence à s'installer en France, mais il y a aussi le variant sud-africain ou encore le brésilien qui pourrait rapidement débarquer chez nous. Et on en sait un peu plus sur l'origine de ces mutations. Mathieu Charrier.
C'est chez des patients immunodéprimés que seraient nés ces variants, c'est-à-dire des malades dont les défenses immunitaires sont amoindries. Chez certains d'entre eux, contaminés au Covid, les médecins leur ont administré des poches de sang de personnes guéries du virus pour qu'elles leur transmettent en quelque sorte leurs anticorps. C'est ça qui aurait entraîné l'apparition de ces variants, explique Morgan Wamsel, spécialiste des vaccins au CNRS.
Il est aussi possible que la réponse immunitaire apportée par ce plasma de convalescent et bloquer les virus qui étaient reconnus par les anticorps de ce patient, mais permis l'émergence, la réplication plus rapide d'un autre variant par lequel le patient avait été infecté.
Ce n'est donc pas le fait que le patient soit immunodéprimé qui a déclenché la mutation, mais le fait qu'on lui administre ce plasma. D'ailleurs, cet essai thérapeutique a depuis été abandonné.
Il est 6h06 sur Europe 1. Le parquet demande à présent des mises en examen dans l'accident de car de Puisseguin.
Et souvenez-vous, en octobre 2015, cette dramatique collision entre un camion et un autocar sur une petite route de Gironde, 43 morts. Et bien hier soir est intervenu un rebondissement judiciaire dans ce dossier. Alors que le juge d'instruction avait fait savoir qu'il mettait fin à ses investigations l'an dernier sans qu'aucune mise en examen ne soit prononcée, c'est le procureur de Libourne qui relance de fait l'instruction puisqu'il requiert, lui, des mises en examen après, je cite, une analyse approfondie du dossier. La réaction du président du collectif des victimes de Puisseguin, Michel Vigier.
Les conclusions du juge d'instruction avaient laissé quand même pas mal d'amertume chez mes adhérents. Vous savez, 43 victimes en 2 ou 3 minutes, c'est quand même un événement qui ne se produit pas, et heureusement, de manière courante. Donc c'était quand même curieux que ça se solde de cette façon. Pour nous, c'est quand même une petite satisfaction, parce que bon, c'est quelqu'un qui reconnaît que malgré tout, il y a quand même quelque chose d'anormal qui s'est passé. Voilà.
Les propos recueillis par Stéphane Place. Aux États-Unis, c'est une première dans l'histoire. Donald Trump est officiellement visé par une seconde procédure de destitution une semaine avant la fin de son mandat. Le Congrès a voté hier sa mise en accusation pour incitation à la violence. Personne n'est au-dessus des lois, pas même le président, a déclaré la représentante démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi.
On va maintenant aller au supermarché. Se dirige-t-on vers la fin des sels nitrités dans les charcuteries françaises?
Un groupe de députés vient de rendre son rapport après une mission d'information sur cette substance que les industriels mettent dans le jambon. À l'origine, c'était pour lutter contre une maladie disparue. Aujourd'hui, c'est pour une meilleure conservation et pour rosir le produit. Pierre Herbulot.
Au milieu des colonnes et des moulures de l'Assemblée nationale, un plateau rempli de tranches de jambon bien blanc.
Ça s'appelle du jambon blanc. Et donc, pourquoi un jambon blanc, il devrait être rose?
Richard Ramos est le rapporteur de la mission d'information sur les nitrites.
Le sel nitrité dans la charcuterie française tue. Et donc aujourd'hui, évidemment, quand vous mangez, vous et vos gosses, du jambon fluo rose, c'est peut-être que là, il y a un petit problème et que nous, on a la conviction que c'est un problème de santé publique.
Une substance responsable de 1000 à 5000 morts par an, selon les études. Ces nitrites, les industriels les utilisent pour augmenter la durée de vie du jambon. Et c'est dangereux seulement si on en mange trop, dit Bernard Valla, le représentant de la Fédération de la charcuterie.
Lorsque les consommateurs respectent les quantités qui sont recommandées en termes de consommation et qu'ils consomment ces charcuteries dans le cadre de repas équilibrés, le risque est nul.
La quantité recommandée, c'est 25 grammes par jour, une demi-tranche de jambon rose maximum, sous peine d'augmenter les risques d'avoir un cancer. Mise en garde de l'Agence de sécurité sanitaire qui doit donner son avis sur l'interdiction définitive des nitrites dans les prochains mois.
Les explications de Pierre Herbulot.
Voilà. Ou alors il y a des jambons sans nitrites, mais c'est plus cher.
Et puis, 2 ans après le lancement de la procédure, l'affaire du siècle arrive aujourd'hui devant la justice. 4 ONG, soutenues par plus de 2 millions de signataires d'une pétition, dénoncent l'inaction de l'État dans la lutte contre le changement climatique.
C'était le journal de 6h, signé Sophie Echen sur Europe 1. Il est 6h10.
Europe Matin,
le 5-7.
Sébastien Krebs.